Décryptage, Anne Cantner.
Les jeunes recrues de l'armée française sont-elles à bout de nerfs? Oui, à en croire l'enquête publiée par deux journalistes françaises. Mauvaise Troupe nous plonge dans l'univers souvent secret de l'armée, surnommée la Grande Muette. On y découvre les coulisses du recrutement des jeunes, la manière dont on les prépare au terrain, mais aussi l'ennui de beaucoup de ces jeunes soldats mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle en France et le sentiment d'isolement de ceux qui reviennent traumatisés par certaines opérations à l'étranger. Décryptage, bienvenue. Nous recevons l'une des deux auteurs de l'enquête sur ces jeunes recrues françaises. Bonsoir Justine Brabant.
Bonsoir.
Vous êtes membre du collectif Les Journalopes et vous signez donc avec Leïla Mignano Mauvaise Troupe qui est parue aux éditions Les Arènes. Également avec nous en studio Frédéric Coste.
Bonsoir.
Maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Ce livre, Mauvaise Troupe, commence par un prologue avec un sous-titre qui donne le ton, l'armée des crevards. Et vous expliquez, Justine Brabant, que l'élément déclencheur d'un changement pour l'armée française, ce sont les attentats de 2015 et le lancement de l'opération Sentinelle. On aura l'occasion de parler de cette opération plus tard, mais pour qu'on puisse comprendre les conséquences, il faut avoir en tête que l'opération Sentinelle mobilise 10 000 soldats sur le territoire français, dont la mission est de protéger les lieux sensibles. Je vous vois hocher la tête, Frédéric Coste. C'est pas 10 000.
7 à 10 000. 10 000, c'est l'effectif théorique en cas de remontée. À l'heure actuelle, c'est un peu plus de 7 000.
Bon, c'est le chiffre qui figure sur le site du gouvernement. Au moins, on aura corrigé ça. Donc, 7 000 déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. À partir de ce moment, du lancement de cette opération Sentinelle, il a donc fallu recruter plus largement. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats, Frédéric Coste?
Alors, une petite précision. C'est pas l'opération Sentinelle qui a obligé à recruter plus. C'est la décision du président de la République, François Hollande à l'époque, de limiter la déflation des effectifs militaires. C'était lié à Sentinelle, au besoin de protéger le territoire national, mais il n'y avait pas que ça en jeu. Il y avait également les opérations extérieures pour lesquelles les unités étaient en surchauffe, très clairement. Donc voilà. Alors, en matière de recrutement, on est sur un contexte qui est compliqué, difficile pour les armées, qu'on partage d'ailleurs avec d'autres nations, et on se sentir pas si mal que ça comparé aux Allemands et aux Britanniques par exemple. Le plus gros problème pour les armées à l'heure actuelle, c'est de pouvoir sélectionner les personnes qui viennent vers elles pour avoir une main-d'œuvre originelle la plus adaptée possible par rapport au métier militaire.
Quel problème, par exemple, en termes de sélection?
Alors, les armées considèrent que pour avoir la main-d'œuvre idoine, il faut sélectionner il faut avoir 5 candidats pour un officier, 3 candidats pour un sous-officier et 2 candidats pour un militaire du rang. Or, pour les deux dernières catégories, on est plutôt à des... Alors, c'est brutal, hein, les chiffres, mais on est plutôt à 1,7 candidats pour un poste. Ça veut dire que la sélection est limitée. Voilà, très clairement. Et que très certainement, les armées, si elles avaient le plus de marge de manœuvre dans ce domaine-là, ne recruteraient pas certaines personnes en sachant qu'elles prennent un risque à les intégrer.
Alors, pour essayer d'attirer les candidats, l'armée a multiplié les campagnes de communication. C'est ce que vous expliquez dans votre livre, Justine Brabant.
Oui, avec tout simplement des nouvelles possibilités aussi qui étaient offertes aux recruteurs, qui avaient besoin de nourrir une armée de flux. C'est l'expression qu'emploie le DRH de l'armée de terre, notamment. Parce que je précise qu'en parallèle des 15 000 personnes que l'armée de terre cherche à recruter chaque année, il y en a 12 000 qui s'en vont dans le même temps. Donc, ça veut vraiment dire qu'il y a un turnover énorme et qu'en permanence, il faut trouver de la chair fraîche, entre guillemets. Et ce qu'on essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'en plus des campagnes un petit peu traditionnelles qu'on a tous en tête, d'affichage par exemple sur les abribus, qui expliquent, voilà, je m'engage pour servir, pour aller sauver des civils, etc. à l'étranger, les recruteurs disposent depuis des années maintenant d'un autre outil qui est assez redoutable, qui est Internet, et notamment les réseaux sociaux, qui permettent de cibler plus précisément les profils dont ils ont besoin,
On va entendre justement un YouTuber parce que l'armée a fait appel à certains de ces jeunes qui sont donc largement suivis sur YouTube, comme par exemple Julien Fabreau. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, il explique dans ses vidéos que c'est bien l'armée qui est allée le chercher et qui lui a proposé 3 jours d'immersion. Résultat, une série de vidéos postées sur sa chaîne YouTube. C'est drôle, c'est léger et surtout ça appuie sur des points dont on suppose qu'il pourrait plaire aux jeunes. On le voit quand même nettoyer les toilettes à un moment dans la vidéo, mais la plupart du temps, la vidéo montre des exercices dans un blindé, du sport, des descentes en rappel ou encore l'entraînement au tir.
Bon, nouveau point dans la journée. Ici, on est au Cital, donc en gros, c'est le centre d'entraînement de tir. On va dire que c'est un jeu vidéo géant. On a un écran qui est ici. On a, on va dire, la PlayStation qui est ici, le cerveau. Et en gros, on a les armes. Donc on a tout plein de types d'armes. On a le FAMAS, on a le bazooka, pour le dire, ATK, on appelle ça, fusil de précision, etc., etc. Et les mecs, ils viennent s'entraîner ici, dans des situations qui sont virtuelles, mais dans une application qui est, on va dire, pseudo-réelle.
Voilà, cet extrait donne bien le ton des vidéos. Justine Brabant, est-ce que ça marche ?
Est-ce que ça marche ? Oui, alors après c'est toujours difficile de savoir, il n'y a pas des questionnaires qui sont administrés systématiquement aux nouveaux entrants pour savoir qu'est-ce qui vous a incité à venir, mais en tout cas on arrive à peu près à remplir les chiffres, les recruteurs réussissent à peu près à rassembler les quotas qui leur sont demandés, parce que c'est aussi ce qu'on explique dans ce livre qui n'est pas expliqué très souvent, c'est qu'on fait parler des anciens recruteurs qui nous expliquent qu'ils ont des quotas, donc quand on sait qu'en parallèle, quand on met ça en parallèle avec la question du faible nombre de gens qui se présentent, on se doute que ça pose question. Mais oui, on peut imaginer que ça marche. Et en tout cas, nous, avec Leïla Mignano, là où on s'aperçoit que ces arguments ont porté, c'est quand on mesure aussi en miroir la déception, ensuite, quand ils sont dedans et qu'ils nous disent, bah, en fait, nous, on considère les recruteurs un peu, ou ces youtubeurs comme des vendeurs de rêves. C'est une expression qui revient souvent. On nous a promis l'aventure et puis on se retrouve en Centrafrique à faire face à des crimes contre l'humanité, par exemple. Donc, on peut imaginer que ces arguments ont porté et que ensuite, c'est ça qui a généré une certaine désillusion.
Alors dans ces cas-là, ces vidéos sur YouTube par exemple, il y a une autorisation de filmer, évidemment, puisqu'il s'agit d'une opération de communication. Mais l'armée française est confrontée à un autre problème avec ces jeunes, ces très jeunes recrues. Contrairement au règlement, ils ne renoncent pas aux réseaux sociaux une fois intégrés.
Oui, et on suit notamment, moi j'ai suivi sur à peu près 8 mois les lives quasi quotidiens d'une jeune recrue qui racontait ses premiers pas et sa vie dans la chambrée via l'application Periscope, qui est une application comme Facebook Live qui permet de se filmer en direct, un peu en mode selfie, et de diffuser à tout le monde. À la différence d'autres réseaux sociaux, il n'y a pas besoin d'avoir un compte particulier ou d'être ami avec la personne pour voir. Et ça illustre, alors si on le suit pendant longtemps, et ça a été mon cas, moi à la fin je connaissais son nom, sa ville d'origine, le métier de ses parents, son régiment, sa ville d'affectation, certains détails embêtants pour la sécurité des militaires. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez nouveau pour l'armée, qu'ils ont du mal, à mon avis, à gérer, vu aussi le nombre de récits qu'on a, de cas de probablement compromission de secrets qui auraient dû être gardés, de vidéos qui ont été faites, dans des laboratoires de recherche nucléaire, de sous-marins. Il y a des gens qui ont fait des soirées mousses, qui ont cru bon de poster ça sur Facebook. Au-delà de l'anecdote, on imagine bien quand on a une génération comme quand on a la génération Snapchat qui s'engage à l'armée, c'est compliqué de la gérer. Et peut-être aussi que l'armée, moi c'est mon hypothèse, je termine là-dessus, peut-être que l'armée n'a pas non plus complètement intérêt à fermer toutes les vannes, à couper les signaux Wi-Fi dans les régiments ou quoi que ce soit, parce qu'elle sait qu'elle a besoin de recruter, et c'est un sacré argument en défaveur de l'engagement, de dire venez dans un super endroit où vous n'aurez pas accès à vos réseaux sociaux préférés.
Frédéric Coste, est-ce que l'arrivée de ces jeunes implique un changement dans le rapport à la hiérarchie ?
Oui, bien sûr. Il implique un changement par rapport à la hiérarchie, mais il faut faire attention à une chose, c'est que une partie des encadrants ont le même âge que les engagés volontaires, les militaires du rang. Donc, ils font partie de la même génération. Alors, il peut y avoir un décalage, effectivement, de génération par rapport aux officiers plus gradés. Ça, c'est vrai. Maintenant, sur est-ce qu'il y a l'équilibre est difficile à trouver en matière de droit à communiquer. pour les armées. Effectivement, vous avez raison, le risque, c'est notamment de divulguer des informations, même sans le faire exprès, qui pourraient être sensibles. C'est un vrai problème, et ça a été surtout un problème quand les armées sont retrouvées à devoir réglementer ça en opération extérieure. Maintenant, il y a deux raisons qui militent pour le fait de laisser, par exemple, des capacités Internet sur les bases. D'abord, il y a effectivement le fait que ce soit ce que les jeunes ont quand ils sortent de l'enceinte militaire, ne pas les couper de complètement d'habitudes qui sont pas leurs habitudes, qui sont les habitudes de tout le monde. On a tous un portable, un smartphone. Et puis le deuxième élément qui pour les militaires est beaucoup plus important, c'est la question du moral. C'est-à-dire, vous devez vous assurer que le militaire puisse être en contact avec sa famille un minimum. Notamment quand il est déployé, parce que ça va jouer sur son moral, sa famille, ses amis éventuellement. Donc y a un équilibre très complexe à trouver. Il y a nombreuses directives qui ont été publiées sur la manière de communiquer, sur les règles de sécurité quand on communique sur les réseaux sociaux. C'est un travail qui est en permanence à refaire chez les cadres. Ça se passe quand même pas tout à fait de la même manière quand les militaires sont déployés.
Alors l'opération Sentinelle, pour revenir aux militaires qui sont mobilisés en France, dont on parlait tout à l'heure au début de l'émission, elle a été lancée en janvier 2015, juste après les attentats contre les journalistes de Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher à Paris. J'aimerais qu'on écoute le bilan que faisait le général Vincent Desportes, ancien général de division de l'armée de terre française. C'était sur France Inter en 2017.
On sait que cette opération empêche les soldats, aviateurs, marins français de s'entraîner normalement. Or, l'armée française est déjà sous-entraînée par rapport aux normes internationales. Autre bilan négatif opérationnel oblige l'armée française à retirer ses effectifs des autres théâtres. Par exemple, on a fermé l'opération Sangaris en Centrafrique pour trouver des effectifs de sentinelles et la Centrafrique est retournée à feu et à sang parce que nous n'avons pas terminé la mission. Même chose au Sahel où nous avons 4000 soldats, nous en aurions 2000 de plus par exemple, 3000, et bien les choses iraient beaucoup mieux. Et autre effet négatif très important, les soldats sont de plus en plus nombreux à ne pas terminer leur contrat parce qu'ils considèrent que ils ne se sont pas engagés pour défiler devant les gardes de province. De moins en moins de soldats, de Français veulent s'engager parce que ce qu'on leur propose ne correspond pas à leur motivation.
Alors plusieurs points importants dans cette intervention de l'ancien général Vincent Desportes, des points que vous abordez dans votre livre Justine Brabant. D'abord, les besoins humains plus importants qui entraînent des rotations incessantes avec des conséquences sur la préparation des soldats et sur l'investissement dans les opérations extérieures comme le Mali ou la Centrafrique, mais aussi sur le moral des militaires, ce qui entraîne, vous le dites dans votre livre, parfois des désertions. On y reviendra tout à l'heure. Frédéric Coste, au tout début de cet extrait, l'ancien général de l'armée de terre affirmait que les militaires français étaient sous-entraînés par rapport aux normes internationales. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Un point de détail à nouveau, j'aime beaucoup les points de détail. L'opération Sentinelle n'a pas débuté en 2015. Depuis des années et des années, il y avait des militaires qui étaient qui sécurisaient le territoire national. Simplement, ça prenait un autre nom et les effectifs étaient bien moins importants. Donc c'est une opération que connaissent les militaires depuis très 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 longtemps. Maintenant, les volumes qui sont concernés sont effectivement très importants. Alors sur la question de la préparation. Oui, ça a un impact sur la préparation parce que en matière d'exercice et d'entraînement, les quotas d'heures ont baissé. Oui.
Donc les militaires sont effectivement sous-entraînés par rapport aux normes internationales, comme le disait l'ancien général Vincent Desportes.
Alors non, parce que ces normes internationales, ce sont des seuils et qu'en réalité, on s'est toujours arrangé, les armées sont toujours arrangées, sauf cas exceptionnel, pour ne pas passer en deçà des seuils. Ce qui n'a pas été le cas d'un certain nombre de nos alliés dans le cadre de l'OTAN. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le choix qui a été fait par les armées, notamment l'armée de terre, à défaut de pouvoir produire de l'entraînement régulier de qualité a été d'axer sur la préparation opérationnelle, c'est-à-dire la préparation juste avant les déploiements, que ce soit pour Sentinel ou que ce soit pour des opérations extérieures. Et une grande partie des capacités d'entraînement sont utilisées pour ça, c'est-à-dire pour préparer pendant 6 mois, 1 an pour les OPEX, hein, pour les opérations extérieures, les personnels à partir, notamment dans la zone sahélo-saharienne, et puis quelques semaines pour Sentinel.
C'est ce que vous racontez dans votre livre, Justine Brabant, le temps de préparation a été écourté. Vous avez rencontré des soldats qui en ont souffert.
Oui, les soldats qui ont été déployés dans le cadre de l'opération Sangaris en République centrafricaine notamment, donc entre 2013 et 2016. Et effectivement, alors c'est des soldats qu'on a retrouvés d'abord parce qu'on travaillait avec Laila Mignano sur un certain nombre de cas d'exactions qui ont été commises en Centrafrique. On documente notamment un cas de torture et puis des cas de prisonniers qui ont été frappés. Et on s'est dit, bon, en fait, au-delà de documenter ces exactions, on a cherché à comprendre qui étaient les jeunes de ce régiment, parce qu'on retrouvait à chaque fois, grosso modo, c'était à peu près la même compagnie. Donc on a cherché à retracer un peu leur parcours et on a découvert, notamment via des enquêtes internes à l'armée, que c'est des gens qui auraient dû en fait normalement compléter leur préparation avant d'être envoyés dans Sangaris. Ils auraient dû compléter leur préparation et passer notamment 3 mois au Gabon. Par le fait du lancement de l'opération Sangaris qui s'est fait rapidement, enfin qui a nécessité quand même assez rapidement, comme toute opération extérieure décidée comme ça par l'évolution des événements sur place, mais à cause de ça et à cause de ce qu'on explique un petit peu depuis le début, du fait qu'on tire sur la corde des effectifs, on s'est retrouvé là-bas avec des soldats qui jugeaient eux-mêmes qu'ils avaient été insuffisamment préparés, qu'ils avaient eu des explications du conflit pour le moins succinctes, qu'ils avaient eu des sortes d'amphi de quelques heures pour leur dire voilà, en gros c'est une guerre de religion. Alors certains soldats nous disent à nous, bon, alors en plus comme moi la religion ça m'intéresse pas particulièrement, j'ai pas suivi l'amphi jusqu'au bout. Donc voilà, c'est assez frappant, ouais, comme témoignage.
Avec des conséquences parfois lourdes pour ces soldats très jeunes, on observe parfois ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Frédéric Coste, comment ces cas sont-ils pris en charge? Est-ce qu'ils sont reconnus par l'armée?
Oui, ils sont reconnus, mais attention, il faut pas tout confondre quand même. La question du stress post-traumatique est une question non pas de préparation. Bien sûr que la préparation opérationnelle peut aider à gérer une situation de rencontre face à la mort.
Ça peut évidemment arriver à d'autres militaires très bien préparés, mais dans ce cas-là, de jeunes qui ont manqué de préparation, ça a pu les fragiliser. Comment est-ce que l'armée prend en charge ces syndromes de stress post-traumatique?
Alors, dans l'armée de terre, en réalité, à tous les niveaux, à tous les échelons hiérarchiques, il y a des personnes qui ont été sensibilisées à la détection du stress post-traumatique. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les unités, vous avez des référents qui sont des gens qui ont été formés à cette détection. Vous avez généralement dans l'unité un officier qui gère ce genre, qui est apte parce que on l'a formé, notamment des psychologues l'ont formé pour gérer sur place les éventuels problèmes que ça pourrait poser. Et puis surtout, vous avez un dispositif assez lourd de psychologues et de psychiatres des armées qui sont censées gérer ces problèmes au retour. On a des cas, hein, le service de santé des armées le communique, on a des cas de personnes qui, du fait d'états de stress post-traumatique, ont été rapatriées sanitaires, alors que c'était des choses qu'on faisait pas du tout avant. Toute cette chaîne, tout ce dispositif de soutien, il a été mis en place progressivement depuis l'Afghanistan. Ça fait 15 ans qu'on l'a maintenant.
Justine Brabant.
Alors effectivement, je pense qu'il y a une meilleure prise en compte, bien sûr, de ces problématiques autour du choc post-traumatique, mais il y a quand même, moi j'ai quand même deux objections à ce dispositif théorique qui est détaillé. C'est que déjà pour des raisons budgétaires, il y a une une partie de ce dispositif, notamment les SAS, qu'on appelle les SAS de décompression, ont été supprimés durant un temps. C'est 3 jours pendant lesquels les militaires peuvent avoir la possibilité de voir des psys, etc. Ils ont été supprimés avant d'être rétablis parce qu'on s'apercevait que la Centrafrique, ça allait être très compliqué psychologiquement. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même aussi, en partie toujours, une sorte de culture qui changera peut-être dans des dizaines d'années, mais qui est au sein du régiment. Quand on va voir un psy, on est considéré comme quelqu'un qui est un peu frêle, qui est peut-être un peu sensible, qui est peut-être un peu faiblard. En tout cas, nous, les militaires, nous le disent très explicitement. Certains chefs de régiment m'ont dit, si je veux voir un psy au retour, ça veut dire que je suis mort pour l'armée, je suis pas à la hauteur.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Frédéric Coste, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, et Justine Brabant, co-autrice de Mauvaise Troupe.